Vous êtes sur RTL.
11h30. RTL.
Le journal inattendu.
Personnellement, je trouve qu'il manque une petite pointe d'amour dans tout ça.
Ah oui ? Une petite pointe d'amour ? Tu crois ? Attends, tu peux m'expliquer mieux ? Plus en détail ? Non mais ça m'intéresse d'avoir la vie de quelqu'un de parfait. C'est vrai, tu te trompes jamais toi. C'est pas fatigant d'être toujours mieux que les autres ?
12h30, 13h30.
Le journal inattendu d'Agnès Jaoui avec Vincent Parisot sur RTL.
Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor.
Bonjour Agnès Jaoui.
Bonjour.
Au son de cette lambada, l'accordéon. Merci beaucoup d'être pour une heure la rédactrice en chef de Journal Inattendu à une semaine de la première. Ce sera au domaine de Sceaux, de Tosca, l'opéra de Puccini que vous mettez en scène dans le cadre du festival Opéra en plein air. D'ici septembre, vous allez vous produire dans des lieux magiques, historiques de notre patrimoine, comme le veut d'ailleurs le principe de ce festival qui veut, disons, créer un nouveau rapport entre le public et le lyrique et attirer notamment ceux qui n'osent pas parfois ou n'ont pas les moyens d'aller à l'opéra. On va donc beaucoup parler musique car c'est votre passion, la musique qui ne fait pas qu'adoucir les mœurs, elle peut soigner aussi, la musicothérapie, ce sera votre reportage. Mais on parlera aussi de vous, de cinéma, de théâtre, de votre carrière, de vos engagements. Vous avez invité le docteur Rada Hatem, la fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis, c'est la première structure en France qui offre une prise en charge globale aux femmes victimes de violence. Je vous dis aussi tout de suite qu'il y aura des surprises. Vous pourrez, si vous le souhaitez, commenter les infos du journal qui va commencer dans une minute. Mais avant cela, Agnès Jaoui, c'est ainsi dans le journal inattendu. Il faut vous tirer le portrait.
Eh bien donc, bonjour, je m'appelle Agnès Jaoui. Je suis une actrice qui écrit, qui met en scène et qui chante.
Ah ben voilà. Eh ben ça a le mérite de la brièveté. On va creuser ça, hein, l'actrice qui écrit, qui met en scène, qui chante et qui met en scène désormais un opéra, Tosca, l'opéra de Puccini. On va y venir. Ce qu'on va faire tout d'abord, c'est parler de l'actualité de ce samedi 8 juin, dominé par la consternation et l'émotion au Sable d'Olonne après la mort de 3 sauveteurs hier en tentant de porter secours à un pêcheur en détresse qui est lui porté disparu. On sera sur place dans un instant. Vous entendrez le témoignage d'un des rescapés. Dans l'actualité également, le Mexique qui cède aux menaces économiques de Donald Trump et annonce des mesures sans précédent contre l'immigration clandestine. Le sport, le double carton des Françaises en ouverture du mondial de foot sur le terrain, 4-0 face aux Sud-Coréennes et à la télé avec au total plus de 10 millions de téléspectateurs. Place aux hommes ce soir, éliminatoire de l'Euro 2020, Turquie-France, coup d'envoi 20h45, rendez-vous sur RTL dès 20h. Le tennis, en ce moment, la suite de la demi-finale entre Djokovic et Tim. Le score, 4 jeux partout dans le 3e set. On ira évidemment à Roland-Garros. Et puis le temps, Valérie Quintin, il y a encore 28 000 foyers privés d'électricité en raison de la tempête. Elle est passée, cette tempête, ça s'arrange dans le ciel.
Ouais, elle est partie. Alors pour autant, sur la moitié nord, c'est pas fameux. On va garder un ciel quand même assez tourmenté, avec du vent, mais bien moins fort, bien sûr. Des rafales de l'ordre de 50 à 70 km/h en pointe. Beaucoup de nuages, quelques pluies, essentiellement entre la Normandie, la Picardie, le Nord et le Pas-de-Calais. L'Alsace va tirer son épingle du jeu avec un temps ensoleillé. Même chose pour la Bourgogne et la Franche-Comté. Pour la moitié sud, tout va bien. Du soleil tout l'après-midi avec quand même de l'instabilité orageuse sur la Corse. Restent les températures. C'est pas très élevé. 17 degrés attendus à Rouen, 18 à Nantes, 20 degrés à Paris, à Nevers, à Besançon, 22 pour Clermont-Ferrand, 26 à Ajaccio.
Voilà. Et puis le samedi, c'est bien pour vous. Vous pouvez aller déjeuner plus tôt.
J'y vais.
Parce que tout à l'heure, c'est vous, Agnès Jaoui, hein, qui serez Madame Météo.
Le journal inattendu sur RTL.
L'un des 4 rescapés du bateau de sauvetage de la SNSM qui a chaviré hier au large des Sables d'Olonne est toujours hospitalisé en observation. Je vous rappelle le bilan de cette opération qui a viré au drame. 3 morts du côté des bénévoles de la SNSM. Le corps du pêcheur qui avait demandé de l'aide n'a toujours pas été retrouvé. Aucune trace non plus de son chalutier. L'équipage était donc parti hier matin à son secours en pleine tempête lorsque les vitres de leur navire ont cédé sous la pression des vagues. L'eau s'est alors engouffrée. L'embarcation a été déstabilisée et a chaviré. Mais aucune faute n'a été commise, assure ce rescapé. Il ne veut surtout penser qu'à ses collègues disparus qui n'ont pas eu sa chance.
Les vitres ont implosé, donc après, sans rien dire, tout le monde a repris ses places et tout le monde a fait ce qu'il fallait. On fallait ouvrir la porte pour évacuer l'eau. Malheureusement, vu l'état du navire après ce mur d'eau, de toute façon, on savait qu'on allait se noyer, qu'on pouvait pas aller à la côte. La mer était trop formée. Et voilà. Et aujourd'hui, ben, nous, on est là et il va falloir accuser le coup en sachant que, ben, eux, ils ont pas eu cette putain d'étoile, quoi. Parce que nous, on en a eu une putain d'étoile hier. Ouais. Mais eux, ils l'ont pas eu. Et moi, je pense à Yann, à Alain, à Dimitri.
Et eux, surtout.
C'est surtout pour nos trois copains qui ne l'ont pas eu, cette putain d'étoile. Et ça, c'est important. Parce que c'est des bénévoles, et demain, ben, ils ne seront pas là. Et voilà, le résultat final, il est pour nous catastrophique.
Voilà, l'un des rescapés sauveteurs de la SNSM. À votre micro, Nicolas Bobby. On vous retrouve au Sable d'Olonne, où l'émotion, évidemment, est immense. La ville s'est d'ailleurs recueillie à midi pour rendre hommage à ces trois victimes.
Hein. Oui, ce midi, les Sables d'Olonne pleurent les trois sauveteurs. En hommage, les cloches viennent de sonner. Alors je suis près des rochers où repose toujours la vedette 061. Les amis de la SNSM viennent se recueillir, le cœur serré.
Ça fait mal, monsieur. Ça fait mal. Je connais ceux qui sont morts déjà. Je connais ceux qui sont morts. C'est horrible. Il n'y a pas de mots. Moi, je suis montée à bord du bateau de sauvetage. On est attachés à bord du bateau de sauvetage. Hein. Montez pas comme ça.
La mer est bien moins forte qu'hier, mais le drapeau rouge a été hissé par les lifeguards, les sauveteurs de la plage, tous membres de la SNSM.
Nicolas Bobby au Sable d'Olonne pour RTL. Et puis, autre conséquence de la tempête Miguel, un homme a été très grièvement blessé cette nuit à Paris, dans le 19e arrondissement, lorsqu'un arbre est tombé sur un réverbère qui a écrasé un passant. Son pronostic vital est engagé. À l'étranger, le Mexique a finalement cédé à la pression économique américaine et s'engage à prendre des mesures sans précédent contre l'immigration clandestine. Donald Trump avait annoncé des taxes douanières à partir de lundi sur tous les produits mexicains. Une hausse de 5% qui aurait dû augmenter progressivement, mensuellement, jusqu'à 25% le 1er octobre. La menace a donc porté ses fruits. Le Mexique va déployer 6000 hommes, notamment à sa frontière sud avec le Guatemala, pour empêcher le passage de migrants vers les États-Unis. Par ailleurs, les migrants qui feront une demande côté américain seront automatiquement renvoyés vers le Mexique avant qu'elle ne soit traitée. Je ne sais pas si cette information vous fait réagir, Agnès Jaoui. Je sais que la question des migrants est une question qui vous touche beaucoup. Est-ce que cette manière d'agir de Donald Trump en faisant pression sur un pays comme le Mexique, en le menaçant de sanctions économiques très dures, ça peut être...
Je sais pas comment dire, il est en train de faire un pays merveilleux, ce Donald Trump. Vraiment, toutes les décisions qu'il prend en matière de droits de l'homme sont catastrophiques. Enfin, tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis est effrayant, déprimant. Je vous conseille un documentaire qui s'appelle Cap sur le Congrès, qui passe en ce moment sur une chaîne câblée,
oui. Enfin
sur Netflix, voilà, ouais. et c'est formidable, enfin, et très 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 instructif, surtout tout ce qui se passe, le nombre de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'assurance, santé, qui sont refusés à l'hôpital, mourant en arrivant, enfin tout ça, enfin voilà, c'est vraiment vive les riches.
Voilà. Et si on veut effectivement regarder de plus près sur ce qui se passe, vous nous dites Cap sur le Congrès, donc ce film à aller voir. Ce qu'on fait, on marque une pause, on parle de sport. Dans un instant, je ne sais pas si le sport vous intéresse, mais le sport féminin peut-être plus. Tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL
avec Agnès Jaoui et Vincent Parisot. Le journal inattendu sur RTL avec Agnès Jaoui et Vincent Parisot.
Agnès Jaoui, vous aimez le football ?
Alors, il se trouve que j'adore le football.
Ah oui, il se trouve.
Bah ouais. Mais évidemment, je me réjouis de ce carton du passage des footballeuses françaises.
Ah oui, c'est génial. Double carton.
Double carton.
Sur le terrain, 4-0, elles ont gagné hier soir face à la Corée du Sud. Et alors, sur le plan médiatique, près de 10 millions de téléspectateurs sur TF1. Avec l'audience de Canal+, la barre des 10 millions de téléspectateurs a donc été dépassée. Ça, vous vous en réjouissez.
Oui, n'en déplaise à monsieur Finkielkraut et d'autres qui pensent que voilà, ça prouve la force des préjugés, des présupposés. Le football féminin n'intéresse pas, la chanson française n'intéresse pas, le cinéma français est moins bien que le cinéma américain ou je sais pas quoi. Et puis finalement, quand on leur donne la place, quand on les, eh ben on se rend compte que oui, ça intéresse et oui, il y a une demande et oui, on aime la chanson française, oui, on aime le football féminin. Voilà.
Mmh. Écoutez, le patron de la Ligue de football professionnel, Didier Quillot, lui aussi, il est content. Hein.
Franchement, personne ne revient de ce chiffre-là. Je trouve que c'est exceptionnel. En même temps, c'est pas surprenant parce que c'est une Coupe du Monde, c'est le match d'ouverture, c'est à Paris, c'est l'équipe de France. Il y a un vrai élan de sympathie. Je pense que ça va apporter un immense vent de fraîcheur. Ça va faire découvrir le football encore davantage aux familles, aux jeunes, aux 15-25. C'est normal qu'il y ait eu ce carton d'audience. La France, c'est un pays qui sait se mobiliser pour les grands événements sportifs nationaux. Donc je suis certain que si les filles vont loin, le pays se mobilisera derrière elles, comme il s'est mobilisé derrière les garçons l'année dernière. Et encore plus, je dirais, parce que c'est en France.
Voilà, Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de foot professionnel. Place aux hommes ce soir. Hein. Vous regarderez peut-être aussi les hommes, Agnès. Éliminatoire de l'Euro 2020, Turquie-France, coup d'envoi 20h45. Soyez à l'écoute d'RTL du Club Lisa dès 20h. Roland-Garros.
RTL. Roland-Garros 2019.
Deux grands rendez-vous aujourd'hui. Alors, les dames encore, la finale dames, affiche inédite entre l'Australienne Barty et la Tchèque Vondrousova. C'est la première finale d'un tournoi du Grand Chelem pour les deux joueuses. Et puis en ce moment, la suite de la deuxième demi-finale homme entre Djokovic et Thiem. Bonjour Jean-Michel Rascol. On va connaître à l'issue de ce match l'adversaire de Nadal en finale.
Effectivement, on va connaître l'adversaire. Alors vous savez que Djokovic avait eu un petit stratagème hier, il était parti parce qu'il en avait assez du vent et des conditions de jeu. Les organisateurs ne se sont pas opposés à ce départ contre toute attente et ça a marché parce qu'il est revenu dans le troisième set tout à l'heure. Il va servir maintenant pour égaliser à 6 partout alors qu'au moment de son départ hier, il était mené 3-1 dans cette troisième manche. Donc il peut eh bien toujours envisager remporter ce troisième set qui n'est pas décisif puisque les deux joueurs sont à un set partout. Mais c'est un match qui devient passionnant, d'autant que les conditions de jeu sont effectivement un petit peu meilleures. Il y a même un rayon de soleil sur Roland-Garros, même si le vent persiste. Voilà pour les garçons. Et puis nous aurons la finale dames tout à l'heure, avec un central qui est donc déjà très bien garni pour voir les deux jeunes filles, Mademoiselle Barty et Vondrousova, qui n'ont jamais disputé, vous l'avez dit, de tournoi du Grand Chelem, disputé le titre des Internationaux de France 2019. On est déjà très excité par cette rencontre.
Merci Jean-Michel. Et maintenant, au service, Agnès Jaoui. Pas si vous l'avez reconnu, ce serait indécent. La Callas dans la Tosca de Puccini. C'est vrai que vous chantiez des airs de la Callas sous la douche quand vous étiez jeune?
Oui, enfin je chantais, je hurlais sur la Callas. voilà. Oui, enfin, tout a commencé comme ça.
Tout en modestie, parce que je précise que vous êtes quand même entré au conservatoire à 17 ans pour étudier le chant classique.
Oui, je suis rentré au conservatoire du 7e et puis après au conservatoire d'Anguin. Oui, je continue d'ailleurs à le pratiquer, et notamment avec mon ensemble Canto Allègre. Mais il n'empêche que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre.
Non, évidemment. Non, surtout qu'à l'époque, après, vous faites des études de littérature, vous suivez les cours de Patrice Chéreau. C'est là que votre carrière s'oriente vers celui de comédienne. Et vous auriez pu faire une carrière de chanteuse ou de chanteuse lyrique?
Je crois pas. Enfin, je ne suis pas sûre que j'en aurais eu le talent et les capacités vocales et solfégiques, parce que j'ai pas appris le solfège petite, donc je l'ai appris tard et mal. Et puis aussi, il faut une telle discipline. J'ai une admiration sans borne pour les chanteurs. Je suis très heureuse de faire un métier et des métiers qui me permettent de faire beaucoup de choses à la fois, d'être uniquement focalisé sur une discipline et en plus qui ne vous empêche de faire la fête, de boire, de... Oui. Enfin voilà, il faut beaucoup, beaucoup de sacrifices et je suis pas du tout sûre que j'aurais pu les faire.
La Callas, on a dit que c'était la Tosca du siècle, c'était son rôle fétiche, c'est avec ce rôle d'ailleurs qu'elle a arrêté sa carrière scénique. Vous mettez en scène cet opéra de Puccini dans le cadre du festival Opéra en plein air. Alors je dis tout de suite, vous serez la semaine prochaine, hein, les 14 et 15 juin au domaine de Sceaux. Les 27, 28, 29, vous serez au château de Vincennes. Le 2 juillet à la cité de Carcassonne. 5 et 6 juillet au domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Et puis début septembre, du 4 au 8, aux Invalides. L'idée, je le disais tout à l'heure, c'est de rendre accessible l'opéra, d'amener le grand public à découvrir le lyrique. Grâce au prix des places, mais grâce aussi au lieu de ces représentations. On ne va pas à l'opéra, en revanche, on va dans des endroits magiques.
On va dans des endroits d'une grande beauté, aussi démesurés que les opéras, enfin l'opéra qui s'y représente. On va dans des parcs, dans des jardins, et on met aussi en valeur ce patrimoine. Et puis les places commencent à 45 euros, à 25 euros pour les moins de 25 ans. Y a aussi le samedi après-midi une piccola tosca l'après-midi, c'est-à-dire que c'est un comédien qui raconte et qui joue la pièce pour les enfants ou pour les plus jeunes.
Et voilà. Qui raconte la pièce.
L'opéra qui est tiré d'une pièce.
C'est pas facile, en plus c'est une histoire de manipulation sur un fond très politique.
Oui, mais c'est quand même assez simple à comprendre. Hein. Ouais. Après, on peut rentrer dans les détails politiques de l'époque, puisque c'est un moment où il y a encore l'ancien régime en Italie et que il y a des gens qui veulent y instaurer une république. Bon, mais autrement, c'est une, enfin voilà, c'est une femme amoureuse d'un homme qui cache justement l'ancien consul, un prisonnier politique, et du coup, le très méchant Scarpia va tout faire va agir sur Tosca, va voilà mettre en chantage, voilà faire chantage en disant j'ai votre amant, donc couchez avec moi et éventuellement je le libérerai.
Voilà. Et du coup on peut aussi s'interroger sur ce personnage de la Tosca. Qu'y a-t-il d'Agnès Jaoui dans la Tosca? Parce que c'est une femme qui a une grande force de caractère, qui est passionnée, qui aime bien défier l'autorité.
Disons, ce qu'il peut avoir en commun, c'est qu'elle, sa liberté est très importante, elle est capitale. Après, je peux pas dire que je me reconnaisse tellement dans ce personnage, non. D'abord, elle est justement assez ignorante politiquement, et c'est ce qui va lui nuire fondamentalement. Mmh. Et puis, elle est religieuse, superstitieuse, jalouse. Pas moi.
Mettre en scène un opéra, vous ne l'avez jamais fait. Et est-ce qu'il a fallu apprendre certains codes, liés à l'opéra, ou est-ce que finalement c'est comme une pièce de théâtre?
Il y a beaucoup de points communs. Et il y a des différences. La première et la majeure, c'est que il faut suivre le rythme de la partition, donc le rythme qu'a donné Puccini et Yanis Pospourikas, le chef d'orchestre, évidemment. Et donc, je suis soumise à ce rythme-là. Donc, c'est très différent d'une pièce ou d'un film où, au contraire, j'insuffle mon propre rythme, enfin, en tout cas, celui que j'imagine pour l'écriture. Autrement, il y a quelques codes parce que tel jour c'est une répétition piano, l'orchestre vient plus tard, il faut il y a les chœurs, il y a pas mal
c'est
de choses.
C'est plus compliqué.
Oui et non, ce sont des difficultés différentes.
Bon, on va en reparler évidemment au cours de cette émission. La Tosca de Puccini dans le cadre d'opéra en plein air. Avant de marquer une courte pause, tiens, on écoute l'une de celles qui sera sur la scène pour le spectacle des Invalides. Donc, Karine Babagnanian qui joue la Tosca. Allez, à tout de suite pour le journal inattendu d'Agnès Jaoui.
Équipe.fr.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Agnès Jaoui et Vincent Parisot.
Alors Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Cédric Capiche.
Le César est attribué à Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
Et je vais faire plaisir à Agnès Jaoui.
Agnès Jaoui pour le goût des autres.
Le César du meilleur scénario original est attribué à Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
Alors, évidemment, ce ne sont pas les récompenses qui font une carrière à Agnès Jaoui, je pense qu'on est, d'accord là-dessus. Mais quand même, 6 Césars, dont 4 pour le meilleur scénario, la reconnaissance, mais aussi la marque du neuf qui a marqué le cinéma français, le goût des autres est quand même allé aux Oscars. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir une place un peu à part dans la famille du cinéma? Cette reconnaissance.
Non, alors, vous savez, je crois que j'ai été très primée, car je suis souvent très déprimée. Voilà, merci, parce que...
Non, mais elle est très bien. La plupart de ces Césars ont donc été partagés avec Jean-Pierre Bacri. Je vous cite, dans une interview donnée il y a quelques années, le plus beau dans l'amour, ça devrait être l'amitié. Non,
je trouve très bien cette citation. Bon, ben. Je ne vais pas la commenter.
On écoute ça, alors.
C'est Jean-Paul, là-bas?
Oui.
20 ans, je ne l'ai pas vu, facile 20 ans.
Ah oui, il est revenu cette année. Il est tout le temps en Afrique, il est dans l'humanitaire. Tu sais ce qu'il fait en ce moment, par exemple? Il distribue des moustiquaires imprégnés dans plein de villages d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, je sais plus.
En tout cas, il a pris un sac à coups de vieux, lui aussi. Hein. Oh, j'ai vieilli comme ça, moi aussi.
Bah, toi, je sais pas, je te vois régulièrement, mais moi, je trouve pas du tout qu'il est vieilli tant que ça, au contraire.
Tu te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte senior, ces enculés, là?
Tu découvres que t'as 65 ans?
Tous les jours. Je le découvre tous les jours.
Voilà, le duo Jaoui Bacri dans Place Publique, votre dernier film l'an dernier. Vos noms sont associés pour toujours quand on parle de Jaoui. Très vite, dans une conversation, celui de Bacri arrive. Et inversement, on sait que vous vivez très bien la situation, mais est-ce que ça vous pèse de temps en temps, justement, de forcément être associé?
Pas du tout.
Bon.
Au contraire, ça me fait plaisir. Voilà. Après, non, même pas.
Bon,
ça me fait plaisir, franchement.
Bon, ben voilà, c'est dit. Tiens, un sujet, comme le veut le principe de l'émission, l'invité pose une question à celui de la semaine suivante. Ça veut dire que tout à l'heure, en antenne, vous posez une question à Laetitia Colombani. Là, c'est Thierry Marx, le grand chef, qui vous pose cette question. Alors, écoutez bien, parce que on a compris que vous aimiez être concise. Là aussi, c'est concis, c'est très court.
Bonjour Agnès Jaoui, c'est Thierry Marx. Pourquoi le goût des autres?
Voilà. Vous avez 4 heures. Hein. Tiens, je vous laisse le temps de réfléchir peut-être quand même avec un...
Avec un peu de pub?
Avec un petit... ça va nous changer avec un petit extrait du goût des autres.
Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire, abuser. J'en ai parlé à Antoine. Et bien qu'il me dise le contraire, j'ai franchement l'impression qu'il est en train de profiter de vos sentiments, de votre sympathie pour moi. Je sais pas.
Attendez, je comprends pas. Il profite de mes sentiments pour vous, c'est-à-dire... J'aime ces peintures, je les achète. Voilà, c'est tout, je vois pas où est le problème. Et vous pensez que je les achetais pourquoi? Vous pensez que c'était pour vous plaire? C'est ça? Pour me faire bien voir? Vous avez pas imaginé une minute que ça pouvait être par goût?
Alors, pourquoi le goût des autres? C'est vrai que le thème de ce film a marqué les esprits et tous ceux qui l'ont vu.
Oui, parce que je pense qu'on souffre tous d'exclusion d'une façon ou d'une autre, et que l'exclusion culturelle, enfin le sectarisme, existe toujours, a toujours existé, et que effectivement, il se trouve que je viens d'une famille juive tunisienne, mais qui n'était ni pratiquante ni enfermée dans une soi-disant communauté. Après, j'étais au lycée Henri IV, mais je faisais pas non plus partie du 5e arrondissement bourgeois et intellectuel. Enfin bref, chez Chéreau, je faisais pas non plus partie du temple. Donc il se trouve que j'ai toujours été un peu à l'écart. C'est pas forcément que je le voulais, mais c'était comme ça. Et j'ai bien vu, en voyageant dans les différentes familles culturelles, que il y avait souvent un immense mépris entre ces familles-là.
Aujourd'hui encore,
le théâtre public et le théâtre privé s'opposent, s'ignorent ou se détestent ou se méprisent. Et on avait envie avec Jean-Pierre d'écrire sur ce thème.
Ben voilà, on a la réponse donc pour Thierry Marx. On marque une pause. Il va être 13h et même un petit peu plus. On va rappeler l'actualité. Vous allez enfiler le costume de Madame Météo ensuite, sans doute une surprise pour vous avant le reportage sur la musicothérapie. À tout de suite.
Agnès Jaoui est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Il est 13h02.
Journal inattendu d'Agnès Jaoui.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Une actualité dominée par la consternation, l'émotion au Sable d'Olonne après la mort de trois sauveteurs hier en tentant de porter secours à un pêcheur en détresse, lui-même porté disparu. La ville a observé une minute de silence, les cloches des églises ont retenti pour leur rendre hommage à midi. Vous avez pu entendre à 12h30 le témoignage d'un des rescapés qui a pu s'extraire du bateau, gagner la rive à la nage. Il assure qu'aucune faute n'a été commise par l'équipage. Pour l'instant, aucune trace du chalutier en détresse. Le corps du pêcheur n'a pas été retrouvé. Notez aussi qu'après le passage de la tempête, en France, 23 000 foyers sont toujours privés d'électricité, principalement en Bretagne et en Normandie. Actualité dominée par le sport, le double carton des Françaises en ouverture du mondial de foot. Sur le terrain, 4-0 face aux Sud-Coréennes. À la télé, plus de 10 millions de téléspectateurs au total. Place aux hommes ce soir, éliminatoire de l'Euro 2020, Turquie-France, coup d'envoi 20h45. Rendez-vous sur RTL pour le Club Lisa de 20h à 23h. Le tennis, en ce moment, la suite de la demi-finale entre Djokovic et Thiem. Et puis à suivre cet après-midi, la finale dames entre Barty et Vondrousova.
Les allées de Roland-Garros avec Daniel Moquet. Daniel Moquet, signe vos allées.
Et pour les allées de Roland-Garros, on retrouve Quentin Vasselin. Quentin, place aux jeunes. Hein.
Oui Vincent, c'est aujourd'hui que le tournoi junior rend son verdict. C'est donc l'occasion de s'intéresser à ces jeunes qui espèrent un jour fouler le court Philippe Châtrier. Et je suis avec Julia Morlaix qui a malheureusement perdu au premier tour du tournoi junior féminin. Bonjour Julia.
Bonjour.
Tu as aujourd'hui 17 ans, quel est ton objectif de carrière?
On travaille tous les jours pour arriver à notre objectif final, rentrer dans le, enfin, en tout cas le mien, rentrer dans le top 10 mondial. Donc on ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver. Après chacun son rythme. Donc on peut pas trop savoir, c'est pas parce qu'on va bien jouer en junior que on va forcément bien jouer en pro et vice versa.
Bon bah on te souhaite le meilleur pour la suite et pourquoi pas un destin à la Justine Hénin qui a gagné chez les juniors en 1997.
Bah merci beaucoup.
Nous on poursuit cette discussion avec le vainqueur junior masculin de l'an 2000. Bonjour Paul-Henri Mathieu.
Bonjour.
Alors est-ce que ça assure une belle carrière?
Ah, c'est difficile à dire, c'est toujours effectivement voilà, un passage important et surtout ça ouvre quelques portes mais ensuite la route est encore longue, voilà, c'est une première étape avant un long chemin.
Merci Paul-Henri Mathieu.
Avec plaisir.
Voilà, donc briller chez les juniors ne garantit pas une grande carrière. Et d'ailleurs, Anisimova, demi-finaliste chez les femmes cette année et finaliste junior il y a 3 ans, a confié cette semaine que le monde junior était très agréable avec beaucoup d'amis, bien différent de celui des pros, beaucoup plus dur et où les amis se font de plus en plus rares.
Merci Quentin Vasselin.
C'était les allées de Roland-Garros avec Daniel Moquet. Daniel Moquet, signe vos allées.
Voilà, et en ce moment, donc 2-7 à 1 pour Thiem. Hein, il a remporté le troisième set, un jeu partout dans la quatrième manche. Et puis alors, le temps, c'est vous, Madame Météo, Agnès Jaoui.
Alors, retour d'un temps ensoleillé sur une large moitié sud du pays, pour changer. Mais aussi en Alsace, et à l'opposé, en Bretagne. Les régions plus au nord devront composer, pour changer, avec de nombreux passages nuageux, du vent et des ondées orageuses, ravissantes et ponctuelles. Les températures iront de 17 à 30 degrés du nord au sud.
Mais c'était parfait.
Merci. Non,
non. Si, si, vous faites ça très bien.
Merci
Agnès
beaucoup.
Jaoui est la rédactrice en chef du journal Inattendu.
J'ai dansé.
Ah oui, oui, moi aussi.
Je l'ai lu dans la nuit. Je pouvais pas m'arrêter. J'en avais même appris des phrases par cœur. Il y en a une à la fin. Les deux jeunes femmes juger la société d'autant plus souverainement qu'elle...
Les deux jeunes femmes
attendez,
pensaient.
Attendez, pardon. Oui, les deux jeunes femmes pensaient la société d'autant plus souverainement. Bon, c'est quoi, là?
Qu'elles s'y trouvaient placées plus bas.
Voilà.
Car les femmes nées connues se vengent de l'humilité de leur position par la hauteur de leur coup d'œil.
Ben.
Non, non, mais j'ai fait un mémoire sur la représentation de la
voilà,
femme.
Le rôle de sa vie, évidemment, avec Karine Viard à vos côtés. Agnès Jaoui, il y a quelques années, dans une interview à Télérama, vous disiez ceci, il y a beaucoup de domaines où le machisme ambiant me choque plus que dans le cinéma, la télé, la plupart des entreprises, l'Assemblée nationale, et vous disiez, j'ai d'ailleurs envie d'écrire une lettre de soutien et d'admiration à Christiane Taubira. Vous l'avez fait?
Mais non, mais je l'ai croisé, je lui ai dit, oui, mon admiration.
Vous lui avez dit votre admiration. Bah, vous pouvez peut-être le refaire. Bonjour Christiane Taubira.
Bonjour Monsieur Parizeau et bonjour Agnès Jaoui,
Ah, écoutez, je suis troublée.
On voit que ça vous trouble. Merci de ce coup de fil de Guyane, hein, coup de fil matinal. Il est 8h07 chez vous, Christiane Taubira.
Tout à fait. Donc, il y a un l'océan Atlantique entre nous, et c'est si peu de choses, Agnès. C'est si peu de choses. Vous êtes mon cadeau du week-end.
Oh, bah, vous de même. Alors là, vraiment.
Christiane Taubira, on sait votre amour, votre connaissance de la littérature et de la poésie, surtout. Ce que l'on sait peu, c'est que vous êtes très cinéphile. Je l'ai appris. On parlait tout à l'heure du goût des autres. Vous aussi, vous estimez que c'est un film essentiel sur la question, j'allais dire, des frontières sociales.
Moi, je crois... D'abord, j'ai envie de dire à Agnès qu'elle est intimidante parce qu'elle est brillante dans tout ce qu'elle fait, y compris pour nous dire la météo. C'est très compliqué avec elle. Quoi qu'on lui confie, donc je pense que pour Tosca, ça va être magnifique aussi, quoi qu'on lui confie, elle est absolument éblouissante. Mais oui, moi, c'est mon préféré, de toute façon. C'est mon préféré, c'est un film que j'ai vu à plusieurs reprises. C'est mon préféré parce qu'il y a une finesse. Ce qu'on trouve dans tous les films d'Agnès Jaoui, bon, de Bakri, souvent, quand ils étaient enfants, ce qu'on trouve, c'est vraiment cette finesse dans la peinture des profils, des personnages, cette subtilité dans les situations, ces dialogues percutants, c'est vivant, c'est drôle, c'est impitoyable, c'est plein de tendresse en même temps. C'est la vie avec sa dureté, avec ses miasmes aussi. Donc moi, le goût des autres, oui, j'aime aussi autre chose. Hein. J'aime aussi place publique, j'aime aussi cuisine et dépendance. Mais le goût des autres, c'est vraiment... pour moi, ça a été un coup de tonnerre quand même, vraiment.
Ouais,
vraiment.
C'est ça.
Merci beaucoup. Je vais surtout appeler Jean-Pierre dès que je sors pour lui dire que j'ai eu la chance de vous entendre. Merci beaucoup.
On sent que vous êtes admirative.
Très.
De Christiane Taubira, de son parcours, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit.
De ce qu'elle a dit, de justement sa position à l'Assemblée qui était tellement remarquable, du choix de ses mots qui est si précis. Elle écrit magnifiquement, elle parle magnifiquement. Et on voyait bien comment tous l'écouter, y compris ceux qui la haïssaient, puis aussi sa force de caractère, parce que elle a subi, des insultes, la bêtise, enfin, le racisme, enfin, etc. Et à chaque fois, elle est droite, digne, magnifique, et encore une fois, avec une intelligence qui nous éclaire, et donc, merci beaucoup.
Bon, en tout cas, je savais que ça vous ferait plaisir, ce petit coup de fil. Merci. Oh, oui, Christiane.
Merci, Agnès.
Merci à vous.
C'est vrai que beaucoup de vos combats sont les mêmes.
absolument. Et je trouve que c'est plutôt rassurant pour l'une et pour l'autre.
Merci beaucoup, Christiane Taubira, de ce coup de fil. Bonne journée. La journée ne fait que commencer pour vous en Guyane. C'était un plaisir de vous en voir. Juste un mot, pas de regret de pas vous être lancé dans la bataille des... Je voulais pas parler de politique, mais je sais que ça vous avait été demandé.
Oui, non, pas de regret, parce qu'il faut des conditions. La politique, c'est servir les gens. Il faut créer les conditions pour être efficace dans le service aux personnes. Donc, enfin, aux personnes, aux citoyennes, aux citoyens. Donc, voilà, il faut s'en donner les moyens. La politique, c'est exigeant. Sinon, on va faire autre chose. Il y a 1000 choses à faire.
Merci beaucoup, Christiane Taubira.
Merci.
Et merci pour ce coup de fil. On quitte la Guyane pour aller en Touraine. Pourquoi ? Parce que vous nous avez demandé un reportage sur la musicothérapie. La musique, ça peut soigner. La preuve, avec ses enfants de 3 à 6 ans rencontrés en Indre-et-Loire à Champsaud-sur-Choisy. C'est un reportage de Christian Panvert.
La séance commence par un rituel, on enlève ses chaussures. Les enfants de 3 à 6 ans forment ensuite un demi-cercle et font face à Emmanuel Felippo.
Et ben voilà, on est bien.
La musicothérapeute prend alors sa guitare.
Dis-moi Amélia, qu'as-tu fait aujourd'hui?
Moi je suis allée avec ma maman au marché.
Est-ce qu'on peut dire que t'as passé une bonne journée?
Oui.
C'est encore une belle journée qui va s'achever.
Les bambins se saisissent spontanément d'instruments cachés dans une valise. Des maracas, une flûte, une cymbalette. Et ils improvisent à leur guise.
Allez, go!
À
Très bien, utilisation de la flûte, parfait, très très bien, et on revient. On applaudit s'il vous plaît. Bravo.
Il se lâche, multiplie les pirouettes. Depuis plusieurs semaines, l'activité développe chez eux beaucoup de qualités.
Capacité d'expression, verbale et corporelle, la confiance en soi, l'estime de soi. C'est important de les applaudir quand ils ont fait quelque chose. L'affirmation de soi, c'est tellement nécessaire dans la vie actuelle et quotidienne.
Laurine ne reconnaît plus Mélia, sa fille de 6 ans.
Mélia, c'est une petite fille qui est très réservée, très timide. Et du coup, j'ai vu vraiment l'évolution. Elle a pris confiance en elle. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et du coup, je vois l'évolution aussi à l'école. Elle s'affirme davantage. Elle va plus facilement prendre la parole, chose qu'elle ne faisait pas du tout. C'est vraiment que du positif.
La musicothérapie développe la concentration, réduit le stress, agit sur le moral. Emmanuel Felippo, formé à l'école d'art-thérapie, la Fratapem, le constate chaque jour.
Quand j'ai une personne qui pleure parce qu'elle se rappelle telle chanson qu'elle me dit, eh ben, je pensais pas un jour la rechanter et pouvoir la rechanter, je trouve ça génial. Quand j'ai une personne atteinte d'autisme qui me regarde et qui entre en communication par juste la guitare qui se trouve entre nous et qu'on a un réel contact, une réelle communication, ça c'est génial.
Et la musicothérapie donne aussi tout simplement le goût de la musique. Parmi les parents rencontrés à Chanceaux-sur-Choisille, certains ont déjà leur billet pour l'opéra de Puccini.
Ah ben voilà, ils viendront vous voir. Cette musicothérapeute, elle officie en tant qu'art-thérapeute. C'est un titre officiel reconnu par l'État.
Bien sûr, c'est très important parce qu'effectivement, notamment pour la thérapie pour les enfants, c'est une façon de communiquer, de rentrer en communication avec elle, avec eux, qui est très important. De toute façon, la musique, elle est consolatrice, elle a un pouvoir incroyable.
On marque une pause et dans un instant, Agnès Jaoui, on reçoit votre invité, le docteur Rada Hatem, la créatrice de la Maison des Femmes. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Agnès Jaoui et Vincent Parisot.
Asoma tu rostro a cantar y no se asoma la luna del mar cuando me faltas tú cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra siempre fuiste la razón de mi existir.
Et en plus, elle chante. Trois albums, hein, on peut dire latino si on veut faire simple.
On peut le dire.
Agnès Jaoui, vous avez tenu à inviter le docteur Rada Hatem, la créatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Elle sera là dans une seconde. Pourquoi elle ? Pourquoi ce...
Parce qu'elle fait un travail essentiel et formidable et que j'ai beaucoup d'admiration.
Bonjour, Rada Hatem.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Cette Maison des Femmes qui a ouvert ses portes en juillet 2016, c'est la première structure en France à offrir une prise en charge globale des femmes victimes de violences. Prise en charge globale, ça veut dire que vous leur proposez quoi à ces femmes en souffrance qui viennent vous voir ?
On leur propose d'abord un accueil. Mmh. Un accueil avec rendez-vous, sans rendez-vous, en semi-urgence si besoin, et on les reçoit sur un plan médical. C'est ça qui fait notre spécificité.
C'est dans le cadre de l'hôpital, une petite maison qui est juste à l'entrée de l'hôpital à Saint-Denis, hein, c'est ça.
Absolument. Donc elles sont reçues par des médecins, des sages-femmes, des psychologues, des conseillères conjugales, et on évalue leur l'atteinte que les violences ont eue sur elles, les besoins qu'elles ont pour se réparer, même si c'est un mot un peu technique, et on leur offre un parcours qui peut aller de la psychothérapie, à la justice, à la prise en charge sociale, à l'art-thérapie, au karaté et au groupe de parole. Et toutes ces petites choses qu'on leur propose améliorent petit à petit l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes et les encouragent à porter plainte et éventuellement à changer de vie.
En assurant donc leur sécurité et la confidentialité, évidemment, c'est très important pour ces femmes qui peuvent être à la merci d'un homme. Vous en recevez, je crois, 30 à 50 par jour ?
Oui, On a... Ben, y a des consultations.
Énorme. Je m'arrête un instant sur ce chiffre. C'est énorme. Et là, ce sont des femmes, j'allais dire, du secteur de la Seine-Saint-Denis et des environs seulement.
Pas que. On a des Parisiennes, on a d'autres départements.
Mais ce pourquoi vous voulez, pardon, Rada, ouvrir d'autres maisons des femmes? C'est qu'il y a un fort besoin.
On ne peut pas tout faire. Et ouvrir une maison comme ça, ça fait un appel d'air. Donc on a des gens qui viennent de très très loin. Oui. Et qui parfois, on ne peut pas les prendre en charge. Parce que venir à une psychothérapie toutes les semaines alors qu'on habite à 2 heures et qu'on n'a pas forcément les moyens de prendre le RER, c'est bête. Oui. Donc il vaudrait mieux avoir des choses plus proches. Et pour ça, on milite pour une dissémination de notre modèle.
Comment vous trouvez les financements, l'argent nécessaire? Vous avez des financement, j'allais dire, pérenne ou faut sans arrêt aller chercher l'argent?
On a un peu de financement pérenne et ça a été amélioré cette année parce que l'Agence régionale de santé, qui est le bras du ministère de la Santé, nous a octroyé une subvention pérenne. Mais ça ne suffit pas. Et pour le reste, on a des donateurs, des fondations privées. On fait des opérations de levée de fonds, des concerts, on va faire une vente aux enchères, on va faire des choses.
Puis vous avez des gens qui vous aident. Tiens, par exemple, cette jeune femme.
Ouais. Balance ton quoi ? Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi.
Balance ton quoi, évidemment, en référence à Balance ton porc, la chanteuse Angèle qui était hier soir au Zénith de Paris. Elle vous soutient activement?
Ah mais c'est formidable. J'ai jamais rencontré Angèle et pourtant, elle a fait ce clip qui est magnifique parce qu'il est tellement gay, tellement... Il y a tellement d'énergie qui s'en dégage et elle a décidé de donner l'argent de la vente des t-shirts à des lieux qui soutiennent les femmes et entre autres nous. Et ça fait partie de ces gens qui nous aiment et qui nous aident, vous avez raison.
La Maison des Femmes à Saint-Denis, donc si on veut vous soutenir, si on veut vous aider, il y a un site internet.
Il y a un site internet, il y a LOSO en permanence, et puis il y a la possibilité de participer à tous nos événements. Et puis on peut acheter des t-shirts chez Meuf Paris.
Meuf Paris, voilà, des t-shirts d'Angèle.
Le clip d'Angèle.
Voilà. Je retiens ce chiffre quand même, 30 à 50 femmes qui viennent frapper chez vous à la Maison des Femmes à Saint-Denis, près de 11 000 consultations par an. Chapeau, madame. Merci beaucoup,
docteur
Rada Hatem, d'être venue nous voir sur RTL. La Maison des Femmes à Saint-Denis. Courte pause. Et dans un instant, la suite et la fin déjà de ce journal inattendu d'Agnès Jaoui. À tout de suite.
En plus, c'est bon.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Agnès Jaoui et Vincent Parisot.
Alors ça, c'est la dernière surprise de ce journal inattendu. La personne qui va nous joindre, on l'entend là, c'était il y a quelques années, sur le plateau de Michel Drucker. Tournez l'oreille. Vous n'avez pas... Vous ne connaissez pas... Non, malheureusement.
Anne Gravoin.
Ah, ben voilà, ouais, vous l'avez trouvé. Voilà. Bonjour Anne Gravoin.
Bonjour.
La violoniste qu'on ne présente plus, évidemment. Ça fait plusieurs années, depuis 2006, que vous accompagnez avec votre orchestre chaque production d'opéra en plein air. Comment ça se passe avec Agnès Jaoui, Anne Gravoin?
Écoutez, c'est une belle rencontre. Voilà, une très belle rencontre. J'étais très heureuse d'abord parce que, comme beaucoup de Français, je suis fan évidemment de sa plume et de sa réalisation comme actrice. Et puis j'étais très impatiente évidemment de travailler. Donc on n'a pas encore commencé toutes les deux parce que moi je suis en pleine répétition aujourd'hui, notamment avec l'orchestre pour Tosca, avec le chef Yanis Pousporekas.
Je vous rejoins d'ici peu.
Ah, c'est-à-dire qu'elle sort d'ici, elle vient vous rejoindre.
Formidable.
Elle vient vous pré-filmer.
Formidable. Voilà, donc je suis très impatiente de cette collaboration avec Agnès.
Agnès Jaoui, comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce que la mise en scène doit se préoccuper de l'orchestre ou est-ce que c'est chacun son rôle?
Alors c'est chacun son rôle, mais en l'occurrence, comme j'aime la musique, j'ai très envie de les filmer et qu'ils soient sur l'écran. Il y aura deux écrans sur scène et je retransmettrai quelques images sur scène. Don de l'orchestre.
Anne Gravoin, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de fausse pour l'orchestre. L'orchestre est sur scène, ce qui est rare, ça, ou même ça n'existe pas à l'opéra, ça, si.
Alors, l'orchestre, pas tout à fait. Enfin, il est sur scène, mais on est quand même dans une sorte de boîte, parce que pour des questions tout simplement
acoustique,
en plein air, donc les intempéries. L'acoustique, non, parce que de toute façon, on est légèrement sonorisé, mais le public nous voit quand même un petit peu. Mais on est très en valeur, contrairement évidemment à tous les opéras du monde où on voit jamais les musiciens.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci Anne.
Merci à vous.
Je vais vous libérer parce que vous allez vous retrouver dans un instant. Anne Gravoin, donc, qui s'occupe de la production artistique de ce Tosca de Puccini que vous mettez en scène, Agnès Jaoui. Et vous serez donc la semaine prochaine. Vous savez où vous serez la semaine prochaine?
À Sceaux.
Voilà, au domaine de Sceaux. Voilà, je vous ai pas piégé. Non. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci à vous.
D'être venu pour ce journal inattendu. Dans un instant sur RTL Confidentiel, Jean-Alphonse Richard, consacré aujourd'hui à Demis Roussos. Bon week-end à tous.